Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, déjà jeudi. Et là, la semaine a passé rapidement. C'est Marianne Paquette, bien heureuse de vous retrouver pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M qui débute à l'instant. On a beaucoup parlé dans les dernières années de l'hypertension artérielle et ça continue, ce problème de santé, de susciter beaucoup d'intérêt au sein de la communauté médicale, du grand public aussi, peut-être notamment à cause du vieillissement de la population. Mais d'en avoir tant parlé, ça a l'avantage d'avoir mieux fait connaître ce problème de santé et de mieux diagnostiquer l'hypertension artérielle, de mieux la traiter également. On parle un petit peu moins d'hypotension artérielle, c'est-à-dire la basse pression, et pourtant, il y a aussi des impacts sur notre santé. J'en parlerai tout à l'heure en deuxième partie d'émission avec notre infirmière en résidence, Jocelyne Galbois. Aussi, vous rappelez qu'à la fin de l'été, vous serez probablement rivé sur votre fauteuil, les yeux vers le Brésil pour les Jeux olympiques de Rio, les Paralympiques également, qui eux se tiendront du 7 au 18 septembre 2020. On attend pour les Paralympiques près de 4350 athlètes dans 22 disciplines sportives différentes. Et je me disais que ces grands événements, un petit peu comme je pourrais également mentionner le défi sportif Altergo, ont contribué à travers les dernières années à mieux faire connaître le sport adapté. On pourrait également parler des événements ou des compétitions sportives qui ont lieu dans des plus petits organismes là, à plus petite échelle, mais toutes ces initiatives-là, ça permet l'épanouissement des personnes qui ont des limitations fonctionnelles et également parce que le sport, la pratique d'une activité sportive, ça aide également à faciliter l'intégration. Et j'avais envie de parler aujourd'hui de tout l'univers du sport adapté. Je l'ai fait avec Donald Royer, lui, président de Parasport Québec. Donald Royer, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous joint du côté de Sherbrooke.
Absolument.
Ça se passe bien de votre côté?
Absolument. Oui, on est occupé avec la préparation pour les Jeux paralympiques. On a différents championnats. Mais mieux vaut être occupé que de rien faire.
Tout à fait. Donald Royer, je vous ai présenté comme le président de Parasport Québec, mais je pense qu'il est important de mentionner que vous êtes également retraité de la faculté sportive de l'Université de Sherbrooke. Vous avez été enseignant là pendant quelques années. Également, ça fait plus de 40 ans que vous travaillez auprès d'athlètes qui ont un handicap, autant comme entraîneur, comme chercheur, comme chef d'équipe et dans différents sports, basketball, athlétisme. Donc, le sport adapté, vous connaissez ça. Est-ce que, à travers toutes les années où vous avez évolué et vous continuez de le faire, vous avez vu des améliorations, des progrès se faire, que ce soit par rapport aux organisations, mais aussi à la perception du grand public?
Écoutez, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a eu des changements. Il y a eu des changements importants et majeurs au niveau non seulement de la perception du public, de l'intégration de ces personnes-là, mais au niveau aussi de la qualité de la performance des individus qui ont adopté le sport pour personnes handicapées, que ce soit différents sports. Donc, on a noté des changements très, très, très significatifs, si je compare avec au moment où j'ai commencé à m'intéresser au sport pour personnes handicapées versus ce que je vis aujourd'hui. Ce sont des changements excessivement importants.
Et peut-être parce que l'on a vu des ambassadeurs, je pense bien sûr à Chantal Petitclerc, parce que ça a vraiment marqué, je pense, les gens ici et ailleurs dans le monde, mais des ambassadeurs comme ça qui ont réussi dans des disciplines et qui ont amené nos yeux sur le sport adapté, sur le sport paralympique, et on a eu envie de s'y intéresser.
C'est sûr que Chantal Petitclerc, c'est une figure de proue, c'est une personne qui est reconnue, je vous dirais, presque mondialement. Mais il faut bien comprendre comment Chantal Petitclerc, il y a eu aussi des personnes qui se sont investies. Il y a eu des athlètes qui ont atteint un certain niveau d'excellence. En 1972, par exemple, Doug Lyons de Drummondville a été choisi l'athlète de l'année par Sport Québec, ce qui était une première, hein, parce qu'auparavant, on n'aurait jamais pu penser qu'un individu en fauteuil roulant pourrait recevoir ce genre de reconnaissance-là. Donc, il y a eu des étapes cruciales. Chantal Petitclerc en est une. André Vigée aussi, dans un autre aspect, a fait la promotion de l'athlétisme, la course sur route. Mais on rencontre à différentes étapes là, des individus qui se sont démarqués, qui ont entraîné dans leur foulée, si je peux utiliser cette expression-là, des plus jeunes, des gens qui, à un moment donné, hésitaient peut-être, qui se demandaient « Oui, qu'est-ce que je fais là-dedans? » Donc, ces gens-là ne sont pas sous-estimés parce qu'ils ont joué plus qu'un rôle des athlètes de haut niveau, des athlètes performants, mais c'est surtout l'influence qu'ils ont eue non seulement sur les plus jeunes, qu'ils ont eue sur le public, qu'ils ont eue sur les médias, sur les responsables au niveau des gouvernements provinciaux, municipaux et ainsi de suite.
Ouais. J'imagine aussi qu'il y a cette influence, que ce soit des municipalités, des écoles ou d'autres intervenants de ce genre qui ont eu envie de rendre accessibles les lieux, parce que ça aussi, c'est un enjeu majeur.
Absolument, ça a été probablement l'obstacle le plus complexe qu'on a vécu. C'est sûr que quand on parle des barrières architecturales, à une époque, on ne pouvait pas tenir certaines épreuves parce que, je vous donne un exemple qui est tout à fait simple, mais qui est excessivement important, l'accès aux toilettes, par exemple. Donc, il a fallu, à un moment donné, être capable d'inclure dans le cadre du bâtiment que les écoles, les nouvelles structures, dans la mesure du moyen, les structures existantes, qu'on s'assure qu'à un moment donné, elle puisse être accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Dès que vous avez des marches, dès que vous avez un obstacle quelconque, les personnes en fauteuil roulant ne peuvent plus s'intégrer aux activités. Donc, il a fallu des changements au niveau des barrières architecturales qui ont été excessivement importants, mais il a fallu aussi se doter d'un réseau de bénévoles qui croyaient au sport pour personnes handicapées, qui ne voyaient pas ça comme « bon, je rends service, mais ce ne sont pas véritablement des athlètes ». Il y a eu aussi des problèmes de perception. Et je vous dirais que les plus gros problèmes qu'on a eus, c'est beaucoup plus souvent des questions d'attitude. Oui, les gens font des efforts, mais c'est pas véritablement du sport. Je sais pas à combien de reprises j'ai dû me battre pour ces problèmes d'attitude, de perception, d'inclusion puis d'intégration. C'était une bataille qui a duré longtemps. Aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'il y a de l'ouverture, il y a peut-être encore des problèmes à régler, mais la vie d'une personne qui est en fauteuil roulant ou de toute personne handicapée est beaucoup plus acceptable qu'elle l'a été à une certaine époque.
Oui. Décidément, pour vous, les athlètes paralympiques sont des athlètes à part entière. On l'entend bien, Donald Royer. Et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous disiez à ces personnes-là qui avaient des doutes, qui avaient une attitude qui était décidément pas adéquate. Peut-être pour un petit peu outiller les gens qui parfois sont encore confrontés à ces préjugés-là.
Écoutez, quand on regarde actuellement le niveau de performance, l'intégration de ces personnes-là, le rôle qu'elles peuvent jouer dans la société, vous mentionnez tantôt Chantal Petitclerc, qui aurait pensé il y a seulement une quinzaine d'années qu'une personne handicapée serait nommée sénateur?
Ben oui, voilà.
Bon, il ne faut pas oublier aussi que la ministre des Sports au niveau canadien est une personne handicapée. Elle est handicapée visuellement, mais elle a été une athlète de niveau paralympique. Donc, on commence à avoir des exemples. André Vigée était aussi un homme d'affaires. Ce sont des gens qui non seulement ont brillé par leur sport, par leur performance, mais qui ont été capables de jouer un rôle qui est très actif dans la société. De plus en plus de personnes handicapées occupent des postes importants, ont des familles. Ce sont des gens qui ont une vie qui est, à ma connaissance, tout à fait normale, hein, qui sont bien intégrés dans la société. Donc, on ne les voit pas uniquement comme des athlètes qui, à l'occasion, performent en fauteuil roulant, mais qui, après, disparaissent de la scène. Ces gens-là jouent de plus en plus un rôle de citoyen à part entière. Moi, je les traite comme des athlètes à part entière, le gouvernement canadien aussi, et le gouvernement québécois, parce qu'on aide à leur financement, mais il y a beaucoup plus qu'à être des athlètes à part entière. Ce sont aussi des citoyen à part entière.
Ouais. Et tous ces exemples, Donald Royer, sont une preuve que le sport est vraiment un moyen formidable d'intégration et d'inclusion des personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles.
C'est beaucoup plus qu'un moyen formidable. C'est un moyen qui est absolument crucial de nos jours, qu'il y ait cette ouverture-là. On parle des Jeux paralympiques, que je dis souvent aux gens, c'est la deuxième plus grande manifestation sportive au monde. Mais bon, oui, quand on parle des Jeux paralympiques, on parle des sommets, on parle des plus performants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des Jeux canadiens, il y a des Jeux québécois, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant maintenant, qui sont des entraîneurs, qui jouent un rôle absolument important dans la promotion puis le recrutement. Donc, c'est une base qu'il faut développer, il faut bien s'outiller. Il y a des bénévoles qui jouent un rôle puis qui y croient fermement. Et c'est important de recruter, d'aller chercher. Il ne faut pas attendre que les personnes en fauteuil roulant ou les personnes handicapées viennent à nous. Souvent, il y a une certaine hésitation, mais déjà dans les centres de réadaptation, on est bien outillés. Avec les fédérations sportives, comme en natation et autres, on a des liens qui nous aident dans la promotion, le développement et le recrutement. Donc, ça prend une base solide pour amener ces gens-là éventuellement à atteindre des sommets qui sont de plus en plus importants.
Donald Royer, qu'est-ce qui reste à faire dans l'univers du sport adapté? Bon, on pourrait se pencher principalement sur le Canada.
Bon, écoutez, évidemment, il reste encore beaucoup de choses. Il y a des sports qui vivotent, qui ont la difficulté. Il faut comprendre que la clientèle, ou ce que moi j'appelle la population de personnes handicapées, n'est pas limitée. C'est pas comme les personnes debout où vous avez un bassin important. Donc, il faut être capable, à un moment donné, de se doter d'outils pour être capable de sortir les gens de leur isolement parfois, même si c'est moins problématique qu'auparavant. Il y a aussi les régions qui sont plus éloignées. Quand on parle, par exemple, de la Côte-Nord, quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, l'accessibilité aux différentes disciplines sportives n'est pas aussi évidente. Donc, une façon de contourner, mais qui n'est pas la réponse totale, c'est d'inclure des personnes qui ne sont pas nécessairement handicapées, mais de les faire embarquer dans un fauteuil roulant pour jouer du basketball ou d'autres activités. Donc, il y a encore du travail de développement, là, si on veut couvrir la majeure partie du Québec. Les grands centres sont peut-être mieux outillés, Montréal, Québec, l'Estrie, Laval et ainsi de suite. Mais à travers le Canada, là, il y a encore un certain nombre de sports qui ont de la difficulté parce que certaines disciplines sont beaucoup plus populaires que d'autres. Je pense au basketball, en fauteuil roulant, qu'est-ce que vous voulez? C'est le sport clé, les gens qui sont au centre de réadaptation s'initient au basketball, mais dans d'autres disciplines, mais on ne peut pas couvrir toutes les disciplines. Et il y a des choix parfois qui sont douloureux à faire parce que on n'a pas le bassin qui est... Donc, il faut choisir à un moment donné.
Il y a certains sports qui se sont particulièrement bien développés à travers les dernières années. Le basketball semble en être un. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Ben, il y a un sport, moi, qui me fascine en termes de développement, c'est le rugby en fauteuil roulant. Pourquoi? Parce que les gens qui sont les plus sévèrement handicapés auparavant avaient absolument rien en termes de sport, d'accessibilité ou autre. Ce sont ce qu'on appelle les quadriplégiques, là, où les gens qui ont des très hautes lésions, des limitations importantes. Aujourd'hui, le rugby en fauteuil roulant est un sport paralympique. Le Canada y excelle. Au niveau du Québec, on a plusieurs équipes. En fin de semaine, à Sherbrooke, il y aura un tournoi provincial. C'est vraiment, vraiment rafraîchissant de voir que ces personnes-là, à un moment donné, peuvent maintenant pratiquer à un haut niveau une discipline qui, à une certaine époque, n'aurait même pas été pensable parce que à cause du niveau de la lésion, de la gravité, moi, ça me réjouit de voir que cette réussite-là a touché des personnes qui en avaient grandement besoin.
Oui. Donald, on a beaucoup parlé des bienfaits du sport, de l'activité physique en ce qui a trait à l'intégration, à l'inclusion des personnes qui vivent avec un handicap, en situation de handicap. Quels sont les bienfaits du point de vue de la santé? Parce qu'on le sait, pour une personne qui n'a pas de handicap, il y en a tout plein. C'est la même chose pour une personne qui vit avec une limitation fonctionnelle.
Écoutez, moi, quand on me parle des bienfaits de l'activité physique, que ce soit une personne qui est valide, ce que les gens appellent debout, qui n'a pas nécessairement d'handicap, une personne handicapée, les bienfaits sont les mêmes, hein, du point de vue cardiovasculaire, du point de vue, à un moment donné, des bienfaits au niveau de la condition physique de l'individu. Donc, il faut faire attention à l'obésité qui est aussi présente.
Ben oui.
Donc, tous ces facteurs-là, il faut... Les gens qui s'intéressent au sport pour personnes handicapées ne sont pas tous nécessairement des athlètes de haut niveau. Il y en a qui sont là pour le plaisir, pour être capable, à un moment donné, de se retrouver en groupe, d'être capable d'avoir une certaine satisfaction, mais ce ne sont pas tous nécessairement des gens qui vont performer à un haut niveau. Donc, les bienfaits de l'activité physique pour l'être humain sont sensiblement les mêmes, mais du point de vue des personnes handicapées, il ne faut pas les retrouver dans une situation de ghetto. Il ne faut pas que ce soit uniquement des personnes handicapées qui se retrouvent entre elles, parce qu'on ne fait que perpétuer le problème. On veut absolument que ces gens-là se retrouvent. Par exemple, jouer du tennis, une personne debout peut aussi bien jouer contre une personne qui est en fauteuil roulant. Donc, il y a toutes sortes de situations où on peut intégrer les personnes, leur faire vivre des situations qui sont tout à fait valorisantes et éviter justement ce qui existait il y a quand même un certain nombre d'années, des situations de ghetto qui ne faisaient que favoriser la dépression, souvent le découragement. Il faut être capable de leur faire vivre des situations qui sont très normalisantes.
Oui. Mais je trouve, en vous écoutant, Donald Royer, que, ben, on l'entend bien, le sport adapté au Québec, au Canada, s'est développé, mais en même temps, ce qui est moins présent, ce sont des activités qui proposent à des gens qui ne vivent pas avec un handicap d'expérimenter des sports adaptés ou de faire du sport avec des personnes handicapées. Ça manque et ça serait bien de voir davantage ce type d'événement-là.
Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce genre de festival, ce genre de situation où les gens se retrouvent, sont bien entre elles, mais pas nécessairement là pour performer. Oui, il y a encore du travail, effectivement, mais écoutez, les défis sont nombreux. Moi, ma consolation, c'est de voir tout ce qui a été accompli depuis les années 60, 70. Ben, je me dis, on va finir par y arriver. Pour certaines personnes, il faudrait que ça arrive plus vite. On n'a pas toujours tous les bénévoles, on n'a pas toujours toutes les infrastructures, mais on voit quand même qu'il y a véritablement là, un désir d'être capable d'offrir des services différents selon les besoins de différentes clientèles.
Mm-hmm. Donald, vous serez samedi 2 avril du côté de l'Université de Sherbrooke pour une conférence en avant-midi dans le cadre de l'événement Sport sans limite. Ça portera sur quoi cette conférence?
Ben, il y aura trois conférenciers, évidemment. L'idée, c'est de sensibiliser les personnes aux bienfaits de l'activité physique. Qu'est-ce qu'on peut faire? N'oubliez pas, à la base, il faut des bénévoles, il faut des gens qui s'y intéressent puis qui y croient. Pour moi, c'est l'élément le plus solide. Parce que si vous n'avez pas une bonne base de bénévoles, tout risque de s'effondrer. Donc moi, c'est d'être capable de faire comprendre aux gens, voici les bienfaits, comment ça a commencé, regardez les progrès qu'on a fait, regardez tout ce que ça apporte comme possibilité d'intégration, de facilité, de la perception, être capable d'offrir. Et les gens qui sont dans le milieu de l'éducation physique, de la kinésiologie, sont capables de permettre justement ce lien-là, d'être capable à un moment donné d'offrir des services qui risquent peut-être d'attirer les gens, puis de dire, ben moi, ça m'intéresse, puis j'aimerais ça continuer, j'aimerais ça m'impliquer, mais il faut être capable d'avoir l'infrastructure qui va garantir ce développement-là.
On glissera tous les liens sur notre site en lien avec ces conférences de sport sans limite. En terminant, c'est les Paralympiques au mois de septembre, du 7 au 18 septembre 2016. Donald Royer, on vous souhaite quoi? Premièrement, je pense que ça va être quoi, la combientième édition là, dans votre cas, parce que vous avez collaboré souvent aux Paralympiques dans le passé?
Écoutez, depuis 72, j'en ai pas raté une seule. Donc, mais à une époque, évidemment, les Paralympiques n'étaient pas au même endroit. C'était dans des villes différentes, mais depuis l'année 92, c'est obligatoire d'avoir les Paralympiques dans les mêmes structures, dans les mêmes facilités que ce qu'on retrouve pour les... Donc, si vous voulez les Jeux olympiques, vous êtes obligé d'organiser les Jeux paralympiques.
Mm-hmm. Donc, on vous souhaite de très, très bons moments pour ces quelques jours-là en septembre. Et est-ce que vous serez sur place? Vous serez au Brésil?
Oui, je serai au Brésil pour encourager l'équipe canadienne. Aujourd'hui, vous devez reconnaître que la structure pour personnes handicapées est morcelée. Hein. Donc, pour moi, l'Association canadienne des sports en fauteuil roulant, c'est un sport, c'est le rugby, et je suis impliqué aussi au niveau du basketball. Mais il y a d'autres disciplines comme l'athlétisme et autres où je n'ai pas une implication directe, mais on a quand même des liens.
Oh, vous avez toujours l'œil quelque part lorsque vient le temps de parler de sport adapté, Donald Royer. Vous êtes président de Parasport Québec. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir, madame, et merci pour l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Jocelyne Gadebois, bonjour.
Bonjour.
Vous avez bravé la pluie pour venir nous rejoindre.
Ben oui, j'ai passé entre les gouttes.
Jocelyne, vous êtes notre infirmière en résidence et vous répondez aujourd'hui à l'une de mes commandes, c'est-à-dire de parler d'hypotension artérielle. Je le disais en introduction, on parle beaucoup d'hypertension artérielle. Mm-hmm. C'est bien connu, ça, la haute tension. C'est un petit peu moins le cas pour ce qui est de la basse pression.
La basse pression, tout à fait. Alors, je vais commencer par expliquer la pression artérielle pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que c'est le phénomène de l'hypotension. Alors, c'est une force exercée par le sang sur la paroi des artères.
Okay.
Bon, alors, en partant, quand le cœur bat, il pousse le sang et c'est cette force-là qui crée la pression artérielle. Alors, quand la pression artérielle devient plus basse, plus faible, bien, le sang est propulsé plus faiblement, et il ne va pas irriguer les organes d'extrémité.
Ah, c'est ce qui fait qu'on peut avoir froid aux orteils,
oui,
aux
doigts.
Oui,
puis les doigts, puis aussi la tête. Donc, c'est pour ça que les symptômes de l'hypotension, ça commence par des étourdissements.
Mm-hmm.
Souvent, c'est subitement un étourdissement. Et de la faiblesse, on va dire. Juste un mouvement de faiblesse et une petite vision brouillée. Et si ça ne va toujours pas, ben une petite syncope, un évanouissement comme tel.
Et de la frilosité, j'imagine, également?
On le ressent pas là, tellement. Le cœur, lui, se met à battre plus vite pour pomper plus vite le sang, comme un réflexe. Le cœur va se mettre à pomper, donc le pouls va augmenter.
OK.
Nécessairement.
Donc, il peut y avoir autant d'impact sur la santé globale?
Oui, mais c'est pas grave, l'hypotension.
OK.
C'est pas une maladie en soi, c'est un symptôme.
OK.
Alors, si ça arrive occasionnellement, une fois de temps en temps, on peut aller voir le médecin, mais il n'y a pas de traitement vraiment. Ça devient grave, là, si vraiment, d'une façon régulière, on fait de l'hypotension, des vertiges, des étourdissements, des syncopes, des pertes de conscience. Là, ça devient grave. Puis là, on a besoin vraiment d'aller voir le médecin, sinon à l'hôpital.
Mm-hmm. Mais dites-moi, Jocelyne, pourquoi l'hypertension est dangereuse, plus dangereuse pour la santé et la basse pression ne l'est pas?
Bien, c'est-à-dire que l'hypertension donne une très grande force sur les parois veineuses et les parois artérielles, très, très grande force, fait travailler le rein plus fort.
Mmh.
Et au niveau de la filtration, ça fait une grosse décharge sur le rein. La réabsorption de liquide peut être plus grande et taux de volume sanguin, ça fait pas du bien pour notre cœur.
Ah, voilà.
Alors, quand on a de l'hypertension, on sent comme... on peut se sentir étourdi, là, mais on a mal à la tête. il n'y a pas tant de symptômes que ça à l'hypertension. Mais c'est vraiment comme une montée de chaleur des fois, puis on a comme un gros mal de tête. Gros mal de tête. Mais ça fait travailler le rein beaucoup plus fort. Et l'hypotension, bien, il y en a trois sortes d'hypotension. Je vais l'expliquer tout de suite. Alors, je vais sortir mes grands mots. Il y a l'hypotension orthostatique. C'est celle des positions, le changement de position, les transitions. Assis, levé, levé, assis. Ça, tout le monde vit ça un jour ou l'autre dans sa vie. Alors ça, ça s'appelle l'hypotension orthostatique liée à la posture. Puis, il n'y a pas de cause évidente nécessairement, mais comme je répète, si c'est trop souvent, on va aller consulter. Alors, puis les aînés sont vraiment plus sujets à cela que l'adulte en bonne santé. Parce qu'eux autres, ils ressentent moins la soif, les aînés, boivent moins. Alors, une personne qui est déshydratée va vraiment, c'est une des causes de l'hypotension également. Alors, les aînés, ils boivent moins, ils sont plus sujets. Ceux qui consomment des drogues et de l'alcool, évidemment. Et après une immobilisation prolongée, le corps est comme arrêté. Et tout à coup, on le remet en mouvement. Alors, ça fait comme un changement de pression, comme un petit rebond avant de rééquilibrer les chiffres normaux de la pression.
C'est pour ça que l'on dit aux gens qui ont tendance à faire l'hypotension le matin de se lever tranquillement du lit.
Exactement, oui. Puis certains troubles cardiaques et certains troubles du système nerveux, ça apparaît comme un symptôme de ces maladies-là.
Pour contrer l'hypotension, on boit de l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut faire?
Oui, on se lève lentement, on s'étire le matin avant de se lever. On boit au minimum 1 litre d'eau par jour, 4 tasses environ. Consommation modérée d'alcool, moins de drogue autant que possible. Éviter des repas trop copieux parce qu'il y a une sorte d'hypotension qui, ça s'appelle postprandiale, c'est après le repas. Quand on digère, tout le sang s'en va, bien, pas tout le sang, mais beaucoup de sang s'en va vers le système digestif parce que ça le fait travailler, puis là, il y a moins d'irrigation de sang ailleurs. Ça peut créer une hypotension après. Et les autres causes d'hypotension, une hémorragie, évidemment, un choc anaphylactique ou encore des grandes infections généralisées.
Là, maintenant, vous savez, mythe et réalité, j'aime beaucoup jouer à ce jeu avec vous, Jocelyne Gadebois. Manger du sel, est-ce que ça peut aider à contrer l'hypotension?
Bien, si le médecin vous dit que vous manquez de sel, de sodium dans votre système, j'aimerais mieux que ce soit une recommandation médicale.
OK.
Que pour manger plus de sodium.
Boire du café, mythe ou réalité?
C'est un mythe.
Faire de l'activité physique?
Faire de l'activité physique, ça garde en bonne santé.
Ah, voilà!
Pour tous les systèmes du corps.
Jocelyne Gadebois, toujours un plaisir de vous parler. C'était intéressant aujourd'hui de pouvoir démystifier l'hypotension parce que, je rappelle, on en parle beaucoup moins que l'hypertension.
J'ai oublié de dire rapidement. Oui, c'est l'hypotension au niveau de la valeur, c'est en bas de 100 ou 90.
Alors, si on prend notre tension, ce sont les indices à observer.
Oui.
Merci, Jocelyne.
Merci beaucoup.
Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console. Merci beaucoup, jeune homme. Marianne Paquette derrière le micro. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Bye-bye.